Chapitre 6. L'évasion. Au milieu de nos adieux, il se répandit autour de nous une odeur aliacée qui me prit à la gorge. C'était la femme de chambre de ces dames qui venait se recommander à leur générosité. Cette créature avait été plus incommode qu'utile et depuis 2 jours, on l'avait dispensée de tout service. Cependant, Madame Sibbons regretta de ne pouvoir rien faire pour elle et me pria de conter au roi comment elle avait été dépouillée de son argent. Algistavros ne parut ni surpris ni scandalisé. Il haussa simplement les épaules et dit entre ses dents « Ce Périclès, mauvaise éducation, la ville, la cour, j'aurais dû m'attendre à cela. » Et il ajouta tout haut « Priez ces dames de ne s'inquiéter de rien. C'est moi qui leur ai donné une servante, c'est à moi de la payer. Dites-leur que si elles ont besoin d'un peu d'argent pour retourner à la ville, ma bourse est à leur disposition. Je les fais escorter jusqu'au bas de la montagne, quoiqu'elles ne courent aucun danger. Les gendarmes sont moins à craindre qu'on ne pense généralement. Elles trouveront un déjeuner, des chevaux et un guide au village de Castia. Tout est prévu et tout est payé. Pensez-vous qu'elles me fassent le plaisir de me donner la main en signe de réconciliation ?» Madame Simone se fit un peu tirer l'oreille, mais sa fille tendit résolument sa main au vieux palicard. Elle lui dit en anglais, avec une espièglerie assez plaisante, « Oh, c'est beaucoup d'honneur que vous nous faites. Très intéressant, monsieur, car en ce moment, c'est nous qui sommes les cleftes et vous qui êtes la victime. » Et le roi répondit de confiance, « Oh, merci, mademoiselle, vous avez trop de bonté. » La jolie main de Marianne était attelée comme une pièce de satin rose qui serait restée en étalage pendant 3 mois d'été. Cependant, croyez bien que je ne me fis pas prier pour y appliquer mes lèvres. Je baisai ensuite le métacarpe austère de Madame Sibbons. « Bon courage, monsieur !» cria la vieille dame en s'éloignant. Marianne ne dit rien, mais elle me lança un coup d'œil capable d'électriser une armée. De tels regards valent une proclamation. Lorsque le dernier homme de l'escorte eut disparu, Algistavros me prit à part et me dit « Eh bien, nous avons donc fait quelque maladresse ?» Hélas, oui, nous n'avons pas été adroits. Cette rançon n'est pas payée, le sera-t-elle ? Je le crois, les Anglais ont l'air d'être au mieux avec vous. Soyez tranquille, sous 3 jours je serai loin du Parnasse. Allons, tant mieux. J'ai grand besoin d'argent, comme vous savez. Nos pertes de lundi vont grever notre budget, il faut compléter le personnel et le matériel. Vous avez bonne grâce à vous plaindre, vous venez d'encaisser 100 000 francs d'un coup. Non, 90. Le moine a déjà prélevé la dîme. Sur cette somme qui vous semble énorme, il n'y aura pas 20 000 francs pour moi. Nos frais sont considérables, nous avons de lourdes charges. Que serait-ce donc si l'Assemblée des actionnaires se décidait à fonder un hôtel des Invalides, comme il en a été question ? Il ne manquerait plus que de faire une pension aux veuves et aux orphelins du brigandage. Comme les fièvres et les coups de fusil nous enlèvent 30 hommes par an, vous voyez où cela nous conduirait ? Nos frais seraient à peine couverts. J'y mettrai du mien, mon cher monsieur. » Vous est-il jamais arrivé de perdre sur une affaire ? Une seule fois. J'avais touché 50 000 francs pour le compte de la société. Un de mes secrétaires, que j'ai pendu depuis, s'enfuit en Thessalie avec la caisse. J'ai dû combler le déficit. Je suis responsable. Ma part s'élevait à 7 000 francs. J'en ai donc perdu 43 000. Mais le drôle qui m'avait volé, on l'a payé cher. Je l'ai puni à la mode des Perses. Avant de le pendre, on lui a arraché toutes les dents, l'une après l'autre. Et on les lui a plantées à coups de marteau dans le crâne, pour le bon exemple, vous entendez? Je suis pas méchant, mais je ne souffre pas qu'on me fasse du tort. Je me réjouis à l'idée que le palicare, qui n'était pas méchant, perdrait 80 000 francs sur la rançon de Madame Simons et qu'il en recevrait la nouvelle lorsque mon crâne et mes dents ne seraient plus à sa portée. Il passa son bras sous le mien et me dit familièrement « Mais comment allez-vous faire pour tuer le temps jusqu'à votre départ? Ces dames vont vous manquer et la maison vous paraîtra grande. Voulez-vous jeter un coup d'œil sur les journaux d'Athènes? Le moine me les a apportés. Moi, je les lis presque jamais. Je sais au juste prix ce que valent les articles de journal, puisque je les paye. Voici la Gazette officielle, l'Espérance, le Palicare et le Caricature. Tout cela doit parler de nous, pauvres abonnés. Allez, je vous laisse. Si vous trouvez quelque chose de curieux, vous me le conterez. » L'Espérance, rédigée en français et destinée à jeter de la poudre aux yeux de l'Europe, avait consacré un long article à démentir les dernières nouvelles du brigandage. Elle plaisantait spirituellement les voyageurs naïfs qui voient un voleur dans tout paysan déguenillé, une bande armée dans chaque nuage de poussière, et qui demandent grâce au premier buisson qui les arrête par la manche de leur habit. Cette feuille véridique vantait la sécurité des chemins, célébrait le désintéressement des indigènes, exaltait le calme et le recueillement qu'on est sûr de trouver sur toutes les montagnes du royaume. Le Palicare, rédigé sous l'inspiration de quelques amis d'Algis Stavros, contenait une biographie éloquente de son héros. Il racontait que ce Thésée des temps modernes, le seul homme de notre siècle qui n'eût jamais été vaincu, avait tenté une forte reconnaissance dans la direction des roches cyroniennes. Trahi par la mollesse de ses compagnons, il s'était retiré avec des pertes insignifiantes. Mais saisi d'un profond dégoût pour une profession dégénérée, il renonçait désormais à l'exercice du brigandage et quittait le sol de la Grèce. Il s'expatriait en Europe, où sa fortune glorieusement acquise lui permettrait de vivre en prince. « Et maintenant, ajoutait le palicare, allez, venez, courez dans la plaine et dans la montagne. Banquiers et marchands, Grecs étrangers, voyageurs, vous n'avez plus rien à craindre. Le roi des montagnes a voulu, comme Charles Quint, abdiquer au plus haut de sa gloire et de sa puissance. » On lisait dans la Gazette officielle dimanche 3 courant, à 5h du soir, la caisse militaire que l'on dirigeait sur Argos avec une somme de 20 000 francs a été attaquée par la bande d'Algis Stavros, connue sous le nom du roi des montagnes. Les brigands, au nombre de 300 ou 400, ont fondu sur l'escorte avec une fureur incroyable. Mais les deux premières compagnons du 2e bataillon du 4e de ligne, sous le commandement du brave major Nikolaïdis, ont opposé une résistance héroïque. Les sauvages agresseurs ont été repoussés à coups de baïonnette en laissant le champ de bataille couvert de morts. Algis Stavros est, dit-on, grièvement blessé. Nos pertes sont insignifiantes. Le même jour, à la même heure, les troupes de Sa Majesté remportaient une autre victoire à 10 lieues de distance. C'est vers le sommet du Parnasse, à 4 stades de Castilla, que la 2e compagnie du 1er bataillon de gendarmerie a défait la bande d'Algis Stavros. Là encore, suivant le rapport du brave capitaine Périclès, le roi des montagnes aurait reçu un coup de feu. Malheureusement, ce succès a été payé cher. Les brigands, abrités par les rochers et les buissons, ont tué ou blessé grièvement 10 gendarmes. Un jeune officier de grande espérance, M. Spiro, élève sortant de l'école des Hérépides, a trouvé sur le champ de bataille une mort glorieuse. En présence de si grands malheurs, ce n'est pas une médiocre consolation de penser que là, comme partout, force est restée à la loi. Le journal La Caricature contenait une lithographie mal dessinée où je reconnus cependant les portraits du capitaine Périclès et du roi des montagnes. Le filleul et le parrain se tenaient étroitement embrassés. Au bas de cette image, l'artiste avait écrit la légende suivante « Comme ils se battent !» Il paraît, dis-je en moi-même, que je ne suis pas seul dans la confidence et que le secret de Périclès ressemblera bientôt au secret de Polichinelle. Je repliais les journaux et en attendant le retour du roi, je méditais sur la position où Mme Simmons m'avait laissée. Certes, il était glorieux de ne devoir ma liberté qu'à moi-même, et mieux valait sortir de prison par un trait de courage que par une ruse d'écolier. Je pouvais, du jour au lendemain, passer à l'état de héros de roman et devenir un objet d'admiration pour toutes les demoiselles de l'Europe. Nul doute que Marianne se prit à m'adorer lorsqu'elle me reverrait sain et sauf après une évasion périlleuse. Cependant, le pied pouvait me manquer dans cette formidable glissade. Si je me cassais un bras ou une jambe, Marianne verrait-elle de bon œil un héros boiteux ou manchot? De plus, il fallait m'attendre à être gardé nuit et jour. Mon plan, si ingénieux qu'il fût, ne pouvait s'exécuter qu'après la mort de mon gardien. Mais tuer un homme n'est pas une petite affaire, même pour un docteur. Cela n'est rien en parole, surtout lorsqu'on parle à la femme qu'on aime. Mais depuis le départ de Marianne, je n'avais plus la tête à l'envers. Il me semblait moins facile de me procurer une arme et moins commode de m'en servir. Un coup de poignard est une opération chirurgicale qui doit donner la chair de poule à tout homme de bien. Qu'en dites-vous, monsieur? Moi, je pensais que ma future belle-mère avait peut-être agi légèrement avec son gendre en espérance. Il ne lui coûtait pas beaucoup de m'envoyer 15 000 francs de rançon, quitte à les imputer ensuite sur la dot de Marianne. 15 000 francs seraient peu de chose pour moi le jour du mariage. Mais c'était beaucoup dans l'état où je me trouvais, à la veille d'égorger un homme et de descendre quelques centaines de mètres par une échelle sans échelon. J'en vins à maudire Madame Simmons aussi cordialement que la plupart des gendres maudissent leur belle-mère dans tous les pays civilisés. Comme j'avais des malédictions à revendre, j'en dirigeais aussi quelques-unes contre mon excellente amie John Harris, qui m'abandonnait à mon sort. Je me disais que s'il eût été à ma place et moi à la sienne, je ne l'aurais pas laissé 8 grands jours sans nouvelles. Passe encore pour Lobster qui était trop jeune, pour Giacomo qui n'était qu'une force inintelligente et pour M. Barinet, dont je connaissais l'égoïsme renforcé. On pardonne aisément une trahison aux égoïstes parce qu'on a pris l'habitude de ne point compter sur eux. Mais Harris, qui avait exposé sa vie pour sauver une vieille négresse de Boston, est-ce que je ne valais pas une négresse? Je croyais en bonne justice en valoir, je ne sais pas moi, au moins 2 ou 3. Algis Stavros vint changer le cours de mes idées en m'offrant un moyen d'évasion plus simple et moins dangereux. Il n'y fallait que des jambes, et Dieu merci, c'est un bien dont je ne me suis pas dépourvu. Le roi me surprit au moment où je bâillais comme le plus humble des animaux. « Vous vous ennuyez, me dit-il. C'est la lecture. J'ai jamais pu ouvrir un livre sans danger pour mes mâchoires. Je vois avec plaisir que les docteurs n'y résistent pas mieux que moi. Mais pourquoi n'employez-vous pas mieux le temps qui vous reste? Vous étiez venu ici pour cueillir les plantes de la montagne. Il ne paraît pas que votre boîte se soit remplie dans ces 8 jours. Voulez-vous que je vous envoie en promenade sous la surveillance de 2 hommes ? Je suis trop bon prince pour vous refuser cette petite faveur. Il faut que chacun fasse son métier en ce bas monde. À vous les herbages, à moi l'argent. Vous direz à ceux qui vous ont envoyé ici, « Voilà des herbes cueillies dans le royaume d'Algistavros. » Si vous en trouviez une qui fût belle et curieuse et dont on n'eût jamais entendu parler dans votre pays, il faudrait lui donner mon nom et l'appeler la reine des montagnes. Mais au fait, pensais-je, si j'étais à 1 lieue d'ici entre 2 brigands, il serait pas trop malaisé de les gagner de vitesse. Le danger doublerait mes forces. Il n'en faut point douter. Celui qui court le mieux est celui qui a le plus grand intérêt à courir. Pourquoi le lièvre est-il le plus vif de tous les animaux? Parce qu'il est le plus menacé. J'acceptai l'offre du roi, et, séance tenante, il plaça 2 gardes du corps auprès de ma personne. Il ne leur fit pas de recommandations minutieuses. Il leur dit simplement... C'est un milord de 15 000 francs, et vous le laissez perdre. Si vous le laissez perdre, il faudra le payer ou le remplacer. Mes acolytes ne ressemblaient nullement à des invalides. Ils n'avaient ni blessure, ni contusion, ni avarie d'aucune sorte. Leurs jarrets étaient d'acier, et il ne fallait pas espérer que leurs pieds se trouveraient gênés dans leurs chaussures, car il portait des mocassins très amples qui laissaient voir le talon. En les passant en revue, je signalai, non sans regret, 2 pistolets aussi longs que des fusils d'enfant. Cependant, je ne perdis pas courage. À force de fréquenter la mauvaise compagnie, le sifflement des balles m'était devenu familier. Je sanglai ma boîte sur mes épaules et je partis. « Bien du plaisir !» me cria le roi. « Adieu, sire. Non pas, s'il vous plaît, au revoir. » J'entraînai mes compagnons dans la direction d'Athènes. C'était autant de prix sur l'ennemi. Ils ne firent aucune résistance et me permirent d'aller où je voulais. Ces brigands, beaucoup mieux élevés que les 4 gendarmes de Périclès, laissaient à mes mouvements toute la latitude désirable. Je ne sentais point à chaque coup pas leurs coudes s'enfoncer dans mes côtes. Ils herborisaient de leur côté pour le repas du soir. Quant à moi, je paraissais très âpre à la besogne. J'arrachais à droite et à gauche les touffes de gazon qui n'en pouvaient mettre. Je feignais de choisir un brin d'herbe dans la masse et je le déposais précieusement au fond de ma boîte en prenant garde de ne point me surcharger. C'était bien assez du fardeau que je portais. J'avais remarqué dans une course de chevaux qu'un admirable jockey s'était laissé battre parce qu'il portait une surcharge de 5 kilogrammes. Mon attention semblait attachée à la terre. Mais vous pouvez croire qu'il n'en était rien. En semblables circonstances, on n'est plus botaniste, on est prisonnier. Pélisson ne se serait pas amusé aux araignées qu'il avait eues seulement un clou pour scier ses barreaux. J'ai peut-être rencontré ce jour-là des plantes inédites qui auraient fait la fortune d'un naturaliste, mais je m'en souciais comme d'une giroflée jaune. Je suis sûr d'avoir passé auprès d'un admirable pied de Boreana variabilis. Il pesait une demi-livre avec les racines. Je ne lui fis pas l'honneur d'un regard. Je ne voyais que deux choses, Athènes à l'horizon et les brigands à mes côtés. J'épiais les yeux de mes coquins dans l'espoir qu'une bonne distraction me délivrerait de leur surveillance. Mais qu'ils fussent sous ma main ou à 10 pas de ma personne, qu'ils fussent occupés à cueillir leur salade ou à regarder voler les vautours, ils avaient toujours au moins un œil braqué sur mes mouvements. L'idée me vint de leur créer une occupation sérieuse. Nous étions dans un sentier assez étroit qui s'en allait évidemment vers Athènes. J'avisais à ma gauche une belle touffe de genêt que les soins de la Providence avaient fait croître au sommet d'un rocher. Je feignis d'en avoir envie comme d'un trésor. J'escaladais à 5 ou 6 reprises le talus escarpé qui la protégeait. Je fis tant qu'un de mes gardiens eut pitié de mon embarras et offrit de me faire la courte échelle. Ce n'était pas précisément mon compte. Il fallut bien accepter ses services. Mais en me hissant sur ses épaules, je le meurtris si outrageusement d'un coup de mes souliers ferrés qu'il hurla de douleur et me laissa tomber à terre. Son camarade, qui s'intéressait au succès de l'entreprise, lui dit « Attends, je vais monter à la place du Milord, moi qui n'ai pas de clous à mes souliers. » Aussitôt dit que fait, il s'élance, saisit la plante par la tige, la secoue, l'ébranle, l'arrache et pousse un cri. Je courais déjà sans regarder en arrière. Leur stupéfaction me donna 10 bonnes secondes d'avance. Mais ils ne perdirent pas de temps à s'accuser l'un l'autre, car bientôt j'entendis leurs pas qui me suivaient de loin. Je redoublais la vitesse. Le chemin était beau, égal, uni, fait pour moi. Nous descendions une pente rapide. J'allais éperdument, les bras collés au corps, sans sentir les pierres qui roulaient sur mes talons et sans regarder où je posais mes pieds. L'espace fuyait sous moi. Rochers et buissons semblaient courir en sens inverse aux deux côtés de la route. J'étais léger, j'étais rapide, mon corps ne pesait rien. J'avais des ailes, mais ce bruit de 4 pieds fatiguait mes oreilles. Tout à coup, il s'arrête. Je n'entends plus rien. Serait-il là de me poursuivre? Un petit nuage de poussière s'élève à 10 pas devant moi. Un peu plus loin, une tache blanche s'applique brusquement sur un rocher gris. 2 détonations retentissent en même temps. Les brigands venaient de décharger leurs pistolets. J'avais essuyé le feu de l'ennemi et je courais toujours. La poursuite recommence. J'entends 2 voix haletantes qui me crient « Arrête, arrête !» Je n'arrête pas. Je perds le chemin et je cours toujours, sans savoir où je vais. Un fossé se présente, large comme une rivière, mais j'étais trop bien lancé pour mesurer les distances. Je saute, je suis sauvé, mes bretelles cassent, je suis perdu. Vous riez, mais je voudrais bien vous voir courir sans bretelles, en tenant des 2 mains la ceinture de votre pantalon. 5 minutes après, monsieur, les brigands m'avaient rattrapé. Ils s'étaient cotisés pour me mettre des menottes aux poignets, des entraves aux jambes, et il me poussait à grands coups de gaule vers le camp d'Algistavros. Le roi me reçut comme un banqueroutier qui lui aurait emporté 15 000 francs. « Monsieur, me dit-il, j'avais une autre idée de vous. Je pensais me connaître en homme, votre physionomie m'a bien trompé. Je n'aurais jamais cru que vous fussiez capable de nous faire tort. Surtout après la conduite que j'avais tenue envers vous. Ne vous étonnez pas si je prends désormais des mesures sévères. C'est vous qui m'efforcez. Vous serez interné dans votre chambre jusqu'à nouvel ordre. Un de mes officiers vous tiendra compagnie sous votre tente. Ceci n'est encore qu'une précaution. En cas de récidive, c'est un châtiment qu'il faudrait vous attendre. Vasile, c'est toi que je commets à la garde de monsieur. Vasile me salua avec sa politesse ordinaire. Ah, misérable, pensai-je en moi-même. C'est toi qui jettes les petits enfants dans le feu. C'est toi qui as pris la taille de Marianne. C'est toi qui as voulu me poignarder le jour de l'ascension. Eh bien, j'aime mieux avoir affaire à toi qu'à un autre. Je ne vous raconterai pas les 3 jours que je passais dans ma chambre en compagnie de Vasile. Le drôle m'a procuré là une dose d'ennui que je ne veux partager avec personne. Il ne me voulait aucun mal. Il avait même une certaine sympathie pour moi. Je crois que s'il m'eût fait prisonnier pour son propre compte, il m'aurait relâché sans rançon. Ma figure lui avait plu dès le premier coup d'œil. Je lui rappelais un frère cadet qu'il avait perdu en cour d'assises. Mais ces démonstrations d'amitié m'importunaient 100 fois plus que les plus mauvais traitements. Il n'attendait pas le lever du soleil pour me donner le bonjour. À la tombée de la nuit, il ne manquait jamais de me souhaiter des prospérités dont la liste était longue. Il me secouait au plus profond de mon repos pour s'informer si j'étais bien couvert. À table, il me servait comme un bon domestique. Au dessert, il me contait des histoires ou me priait de lui en apprendre. Et toujours la griffe en avant pour me serrer la main. J'opposais à son bon vouloir une résistance acharnée. Outre qu'il me semblait inutile de coucher un rôtisseur d'enfants sur la liste de mes amis, je n'étais nullement curieux de presser la main d'un homme dont j'avais décidé la mort. Ma conscience me permettait bien de le tuer. N'étais-je pas dans le cas de légitime défense? Mais je me serais fait scrupule de le tuer par trahison, et je devais au moins le mettre sur ses gardes par mon attitude hostile et menaçante. Tout en repoussant ses avances, en dédaignant ses politesses, en rebutant ses attentions, je guettais soigneusement l'occasion de m'échapper. Mais son amitié, plus vigilante que la haine, ne me perdait pas de vue un seul instant. Lorsque je me penchais sur la cascade pour graver dans ma mémoire les accidents du terrain, Vasile m'arrachait à ma contemplation avec une sollicitude maternelle. « Prends garde, disait-il en me tirant par les pieds, si tu tombais par malheur, je me le reprocherais toute ma vie. » Lorsque, la nuit, j'essayais de me lever à la dérobée, il sautait hors de son lit en demandant si j'avais besoin de quelque chose. Jamais on n'avait vu un coquin plus éveillé. Il tournait autour de moi comme un écureuil en cage. Ce qui me désespérait par-dessus tout, c'était sa confiance en moi. Je témoignai un jour le désir d'examiner ses armes. Il me mit son poignard dans la main. C'était un poignard russe en acier damasquiné de la fabrique de Toula. Je tirai la lame du fourreau. J'essuyai la pointe sur mon doigt. Je la dirigeai sur sa poitrine en choisissant la place entre la 4e et la 5e côte. Et il me dit en souriant, « Oh, n'appuie pas, tu me tuerais. » Certes, monsieur, en appuyant un peu, j'aurais fait justice, mais quelque chose me retint le bras. Il est regrettable que les honnêtes gens aient tant de peine à tuer des assassins, qui en ont si peu à tuer des honnêtes gens. Je remis le poignard au fourreau. Vasile me tendit son pistolet, mais je refusais de le prendre, et je lui dis que ma curiosité était satisfaite. Il arma le chien, me fit voir la morse, appuya le canon sur sa tête et me dit « Voilà, tu n'aurais plus de gardien. » « Plus de gardien et barbleu, c'est ce que je voulais. » Mais l'occasion était trop belle et le traître me paralysait. Si je l'avais tué dans un pareil moment, je n'aurais pas pu soutenir son dernier regard. Mieux valait faire mon coup pendant la nuit. Par malheur, au lieu de cacher ses armes, il les déposait ostensiblement entre son lit et le mien. Je finis par trouver un moyen de fuir sans l'éveiller et sans l'égorger. Cette idée me vint le dimanche 11 mai à 6 heures. J'avais remarqué le jour de l'Ascension que Vassil aimait à boire et qu'il portait mal le vin. Je l'invitai à dîner avec moi. Oh, ce témoignage d'amitié lui monta la tête. Le vin d'Égine fit le reste. Hadji Stavros, qui ne m'avait pas honoré d'une visite depuis que je n'avais plus son estime, se conduisit encore en hôte généreux. Ma table était mieux servie que la sienne. J'aurais pu boire une outre de vin et un tonneau de raki. Vasil, admis à prendre sa part de ses magnificences, commença le repas avec une humilité touchante. Il se tenait à 3 pieds de la table, comme un paysan invité chez son seigneur. Peu à peu, le vin rapprocha les distances. À 8 heures du soir, mon gardien m'expliquait son caractère. À 9 heures, il me racontait, en balbutiant, les aventures de sa jeunesse et une série d'exploits qui auraient fait dresser les cheveux d'un juge d'instruction. À 10 heures, il tomba dans la philanthropie. Ce cœur d'acier trempé fondait dans le raki, comme la perle de Cléopâtre dans le vinaigre. Il me jura qu'il s'était fait brigand par amour de l'humanité, qu'il voulait faire sa fortune en 10 ans, fonder un hôpital avec ses économies et se retirer ensuite dans un couvent du mont Athos. Il promit de ne pas m'oublier dans ses prières. Je profitais de ses bonnes dispositions pour lui ingérer une énorme tasse de raki. J'aurais pu lui offrir de la poire enflammée. Oh, il était trop bon ami pour rien refuser de moi. Bientôt, il perdit la voix. Sa tête pencha de droite à gauche et de gauche à droite avec la régularité d'un balancier. Il me tendit la main, rencontra un restant de rôti, le serra cordialement, se laissa tomber à la renverse et s'endormit du sommeil des sphinx d'Égypte que le canon français n'a pas réveillé. Je n'avais pas un instant à perdre. Les minutes étaient d'or. Je pris son pistolet que je lançai dans le ravin. Je saisis son poignard et j'allais l'expédier dans la même direction lorsque je réfléchis qu'il pouvait me servir à tailler des mottes de gazon. Ma grosse montre marquait 11 heures. J'éteignis les 2 foyers de bois résineux qui éclairaient notre table. La lumière pouvait attirer l'attention du roi. Il faisait beau. Pas plus de lune que sur la main, mais des étoiles en profusion. C'était bien la nuit qu'il me fallait. Le gazon, découpé par longues bandes, s'enlevait comme une pièce de drap. Mes matériaux furent prêts au bout d'une heure. Comme je les portais à la source, je donnais du pied contre Vasil. Il se souleva pesamment et me demanda par habitude si j'avais besoin de quelque chose. Je laissai choir mon fardeau. Je m'assis auprès de l'ivrogne et je le priai de boire encore un coup à ma santé. « Oui, dit-il, j'ai soif. » Je lui remplis pour la dernière fois la coupe de cuivre. Il en but moitié, répandit le reste sur son menton et sur son cou, essaya de se lever, retomba sur la face, étendit les bras en avant et ne bougea plus. Je courus à ma digue, et tout novice que j'étais, le ruisseau fut solidement barré en 45 minutes. Il était 1h moins un quart. Au bruit de la cascade succéda un silence profond. La peur me prit. Je réfléchis que le roi devait avoir le sommeil léger, comme tous les vieillards, et que ce silence inusité l'éveillerait probablement. Dans le tumulte d'idées qui me remplissait l'esprit, je me souvins d'une scène du barbier de Séville où Bartolo s'éveille dès qu'il cesse d'entendre le piano. Je me glissai le long des arbres jusqu'à l'escalier et je parcourus des yeux le cabinet d'Algis Stavros. Le roi reposait péniblement aux côtés de son chibouji. Je me glissai jusqu'à 20 pas de son sapin. Je tendis l'oreille. Tout dormait. Je revins à ma digue à travers une flaque d'eau glacée qui montait déjà jusqu'à mes chevilles. Je me penchai sur l'abîme. Le flanc de la montagne miroitait imperceptiblement. On apercevait d'espace en espace quelques cavités où l'eau avait séjourné. J'en pris bonne note. C'était autant de places où je pouvais mettre le pied. Je retournai à ma tente, je pris ma boîte qui était suspendue au-dessus de mon lit et je l'attachai sur mes épaules. En passant par l'endroit où nous avions dîné, je ramassai le quart d'un pain et un morceau de viande que l'eau n'avait pas encore mouillé. Je serrai ces provisions dans ma boîte pour mon déjeuner du lendemain. La digue tenait bon. La brise devait avoir séché ma route. Il était tout près de 2 heures. J'aurais voulu, en cas de mauvaise rencontre, emporter le poignard de Vassile. Au cas de mauvaise rencontre, oui, mais il était sous l'eau et je ne perdis pas mon temps à le chercher. J'ôtai mes souliers et je les liai ensemble par les cordons et je les pendis au courroies de ma boîte. Enfin, après avoir songé à tout, jetai un dernier coup d'œil à mes travaux de terrassement, évoquai les souvenirs de la maison paternelle et envoyai un baiser dans la direction d'Athènes et de Marianne. J'allongeai une jambe par-dessus le parapet. Je pris à 2 mains un arbuste qui pendait sur l'abîme et je me mis en voyage à la garde de Dieu. C'était une rude besogne, plus rude que je ne l'avais supposé de là-haut. La roche mal essuyée me procurait une sensation de froid humide comme le contact d'un serpent. J'avais mal jugé les distances et les points d'appui étaient beaucoup plus rares que je ne l'espérais. 2 fois, je fis fausse route en inclinant sur la gauche. Il fallut revenir à travers des difficultés incroyables. L'espérance m'abandonna souvent, mais non la volonté. Le pied me manqua, je pris une ombre pour une saillie, et je tombai de 15 ou 20 pieds de haut, collant mes mains et tout mon corps au flanc de la montagne, sans trouver où me retenir. Une racine de figuier me rattrapa par la manche de mon paletot. Vous en voyez ici les marques. Un peu plus loin, un oiseau blotti dans le trou s'échappa si brusquement entre mes jambes que la peur me fit presque tomber à la renverse. Je marchais des pieds et des mains, surtout des mains. J'avais les bras rompus et j'entendais trembler tous les tendons comme les cordes d'une harpe. Mes ongles étaient si cruellement endoloris que je ne les sentais plus. Peut-être aurais-je eu plus de force si j'avais pu mesurer le chemin qui me restait à faire. Mais quand j'essayais de retourner la tête en arrière, le vertige me prenait et je me sentais aller à l'abandon. Pour soutenir mon courage, je m'exhortais moi-même. Je me parlais tout haut entre mes dents serrées. Je me disais « Allez, encore un pas pour mon père, Encore un pas pour Marianne. Encore un pas pour la confusion des brigands et la rage d'Algy Stavros. Enfin, mes pieds posèrent sur une plateforme plus large. Il me sembla que le sol avait changé de couleur. Je pliai les jarrets, je m'assis, je retournai timidement la tête. Je n'étais plus qu'à 10 pieds du ruisseau. J'avais gagné les rochers rouges. Une surface plane, percée de petits trous où l'eau séjournait encore, me permit de prendre haleine et de me reposer un peu. Je tirai ma montre. Il n'était que 2h30. J'aurais cru, quant à moi, que mon voyage avait duré 3 nuits. Je me tâtais bras et jambes pour voir si j'étais au complet. Dans ces sortes d'expéditions, on sait ce qui part, mais on ne sait pas ce qui arrive. J'avais eu du bonheur. J'en étais quitte pour quelques contusions et 2 ou 3 écorchures. Le plus malade était mon paletot. Je levai les yeux en l'air, non pas encore pour remercier le ciel, mais pour m'assurer que rien ne bougeait dans mon ancien domicile. Je n'entendis que quelques gouttes d'eau qui filtraient à travers ma digue. Tout allait bien, mes derrières étaient assurées. Je savais où trouver Athènes, adieu donc au roi des montagnes. J'allais sauter au fond du ravin, quand une forme blanchâtre se dressa devant moi, et j'entendis le plus furieux aboiement qui ait jamais éveillé les échos à pareille heure. Hélas, monsieur, j'avais compté sans les chiens de mon hôte. Ces ennemis de l'homme rôdaient à toute heure autour du camp, et l'un d'eux m'avait flairé. Ce que j'éprouvais de fureur et de haine à sa rencontre est impossible à dire. On ne déteste pas à ce point un être déraisonnable. J'aurais mieux aimé me trouver face à face avec un loup, avec un tigre ou un ours blanc, noble bête qui m'aurait mangé sans rien dire, mais qui ne m'aurait pas dénoncé. Les animaux féroces vont à la chasse pour eux-mêmes, mais que penser de cet horrible chien qui m'allait dévorer bruyamment pour faire sa cour au vieil Algy Stavros? Je le criblais d'injures, je fis pleuvoir sur lui les noms les plus odieux. Mais j'avais beau faire, il parlait plus haut que moi. Je changeais de note. J'essayais l'effet des bonnes paroles. Je l'interpellais doucement en grec dans la langue de ses pères. Il ne savait qu'une réponse à tous mes propos, et sa réponse ébranlait la montagne. Je fis silence, c'était une idée. Il se tut. Je me couchai parmi les flaques d'eau. Il s'étendit au pied du rocher en grognant contre ses dents. Je feignis de dormir. Il dormit. Je me laissai glisser insensiblement vers le ruisseau. Il se leva d'un bond et je n'eus que le temps de remonter sur mon piédestal. Mon chapeau resta entre les mains, ou plutôt entre les dents de l'ennemi. L'instant d'après, ce n'était plus rien qu'une pâte, une marmelade, une bouillie de chapeau. Pauvre chapeau, je le plaignais, je me mettais à sa place. Si j'avais pu sortir d'affaire moyennant quelques morsures, je n'y aurais pas regardé de trop près. J'aurais fait la part du chien. Mais ces monstres-là ne se contentent pas de mordre les gens, ils les mangent. Je m'avisais que sans doute il avait faim, et que si je trouvais de quoi le rassasier, il me mordrait probablement encore, mais il ne me mangerait plus. J'avais des provisions, j'en fis le sacrifice. Mon seul regret était de n'en avoir pas 100 fois plus. Je lui lançai la moitié de mon pain. Oh, il l'engloutit comme un gouffre. Figurez-vous un caillou qui tombe dans un puits. Je regardais piteusement le peu qui me restait à lui offrir, quand je reconnus au fond de la boîte un paquet blanc qui me donna des idées. C'était une petite provision d'arsenic destinée à mes préparations zoologiques. Je m'en servais pour empailler des oiseaux, mais aucune loi ne me défendait d'en glisser quelques grammes dans l'enveloppe du chien. Mon interlocuteur, mis en appétit, ne demandait qu'à poursuivre son repas. « Attends, lui dis-je, je vais te servir un plat de ma façon. » Le paquet contenait environ 35 grammes d'une jolie poudre blanche et brillante. J'en versai 5 ou 6 dans un petit réservoir d'eau claire et je remis le reste dans ma poche. Je délayai soigneusement la part de l'animal. J'attendis que l'acide arsénieux fût bien dissous. Je plongeai dans la solution un morceau de pain qui but tout comme une éponge. Le chien s'élança de bon appétit et avala sa mort en une bouchée. Mais pourquoi ne m'étais-je pas muni d'un peu de strychnine ou de quelque autre bon poison plus foudroyant que l'arsenic? Il était plus de 3 heures et les essais de mon invention se firent cruellement attendre. Vers la demi, le chien se mit à hurler de toutes ses forces. Je n'y gagnais pas beaucoup. Aboiements ou hurlements, cris de frayeur ou cris d'angoisse allaient toujours au même but, c'est-à-dire aux oreilles d'Algis Stavros. Bientôt, l'animal se tordit dans des convulsions horribles, il écuma, il fut pris de nausées, il fit des efforts violents pour chasser le poison qui le dévorait. C'était un spectacle bien doux pour moi et je goûtais savoureusement le plaisir des dieux. Mais la mort de l'ennemi pouvait seule me sauver, et la mort se faisait tirer l'oreille. J'espérais que, vaincu par la douleur, il finirait par me livrer passage. Mais il s'acharnait contre moi. Il me montrait sa gueule baveuse et sanguinolente comme pour me reprocher mes présents et me dire qu'il ne mourrait pas sans vengeance. Je lui lançai mon mouchoir de poche. Il le déchira aussi vigoureusement que mon chapeau. Le ciel commençait à s'éclaircir et je pressentais bien que j'avais commis un meurtre inutile. Une heure encore et les brigands seraient sur mes bras. Je levai la tête vers cette chambre maudite que j'avais quittée sans espoir de retour et où la puissance d'un chien allait me faire rentrer. Une cataracte formidable me renversa la face contre terre. Des mottes de gazon, des cailloux, des fragments de rochers roulaient autour de moi avec un torrent d'eau glaciale. La digue était rompue et le lac tout entier se vidait sur ma tête. Un tremblement me saisit. Chaque flot en passant emportait quelques degrés de ma chaleur animale et mon sang devenait aussi froid que le sang d'un poisson. Je jette les yeux sur le chien. Il était toujours au pied de mon rocher, luttant contre la mort, contre le courant, contre tout, la gueule ouverte et les yeux braqués sur moi. Il fallait en finir. Je détachai ma boîte, je la pris par les deux sangles et je frappai cette hideuse bête avec tant de fureur que l'ennemi me laissa le champ de bataille. Le torrent le prit au flanc, le roula 2 ou 3 fois sur lui-même et le porta je ne sais où. Je saute dans l'air, j'en avais jusqu'à mi-corps. Je me cramponne au rocher de la rive, je sors du courant, j'aborde sur la rive, je me secoue et je crie « Hourra pour Mary Ann !» 4 brigands sortent de terre et me prennent au collet en disant « Te voilà donc, assassin! Venez tous, nous le tenons! Le roi sera content, Basile sera vengé !» Il paraît que, sans le savoir, j'avais noyé mon ami Basile. En ce temps-là, monsieur, je n'avais pas encore tué d'homme. Basile était mon premier. J'en ai abattu bien d'autres depuis à mon corps défendant, et uniquement pour sauver ma vie, Mais Vasile est le seul qui m'ait laissé des remords, quoique sa fin soit le résultat d'une imprudence fort innocente. Vous savez ce que c'est qu'un premier pas. Aucun assassin découvert par la police et reconduit de brigade en brigade jusqu'au théâtre de son crime ne baissa la tête plus humblement que moi. Je n'osais lever les yeux sur les braves gens qui m'avaient arrêté. Je ne me sentais pas la force de soutenir leur regard réprobateur. Je pressentais en tremblant une épreuve redoutable. J'étais sûr de comparaître devant mon juge et d'être mis en présence de ma victime. Comment affronter les sourcils du roi des montagnes après ce que j'avais fait? Comment revoir sans mourir de honte le corps inanimé du malheureux Vasile? Plus d'une fois, mes genoux se dérobèrent sous moi et je serais resté en route sans les coups de pied qui me suivaient par derrière. Je traversais le camp désert, le cabinet du roi occupé par quelques blessés, et je descendis, ou plutôt je tombai, jusqu'au bas de l'escalier de ma chambre. Les eaux s'étaient retirées en laissant des taches de fange à tous les murs et à tous les arbres. Une dernière flaque restait encore à la place où j'avais enlevé le gazon. Les brigands, le roi et le moine se tenaient debout, en cercle, autour d'un objet gris et limoneux dont la buis me fit dresser les cheveux sur ma tête. C'était Vasile. « Le ciel vous préserve, monsieur, de voir jamais un cadavre de votre façon. » L'eau et la boue, en s'écoulant, avaient déposé un enduit hideux autour de lui. « Avez-vous jamais vu une grosse mouche prise depuis 3 ou 4 jours dans une toile d'araignée ?» L'artisan des filets, ne pouvant se défaire d'une pareille honte et d'un pareil hôte, l'enveloppe d'un peloton de fil grisâtre et le change en une masse informe et méconnaissable. Tel était Vasile quelques heures après avoir soupé avec moi. Je le retrouvai à 10 pas de l'endroit où je lui avais dit adieu. Je ne sais si les brigands l'avaient changé de place ou s'il s'était transporté là lui-même dans les convulsions de l'agonie. Cependant, j'incline à croire que la mort lui avait été douce. Plein de vin comme je l'ai laissé, il a dû succomber sans débat à quelque bonne congestion cérébrale. Un grondement de mauvais augure salua mon arrivée. Hadji Stavros, pâle et le front crispé, marcha droit à moi, me saisit par le poignet gauche et me tira si violemment qu'il faillit me désarticuler le bras. Il me jeta au milieu du cercle avec une telle vivacité que je pensais mettre le pied sur le corps de ma victime. Je me rejetai vivement en arrière. « Regardez !» me cria-t-il d'une voix tonnante. « Regardez ce que vous avez fait. Jouissez de votre ouvrage. Rassasiez vos yeux de votre crime. Malheureux, mais où donc vous arrêterez-vous ? Qui m'aurait dit le jour où je vous ai reçu ici que j'ouvrais ma porte à un assassin ?» Je balbutiai quelques excuses. J'essayais de démontrer au juge que je n'étais coupable que par imprudence. Je m'accusais sincèrement d'avoir enivré mon gardien pour échapper à sa surveillance et fuir sans obstacle de ma prison. Mais je me défendis du crime d'assassinat. Était-ce ma faute à moi si la crue des eaux l'avait noyé 1 heure après mon départ ? La preuve que je ne lui voulais pas aucun mal, c'est que je ne l'avais pas frappé d'un seul coup de poignard lorsqu'il était ivre mort et que j'avais ses armes entre les mains. On pouvait laver son corps et s'assurer qu'il était sans blessure. « Au moins, reprit le roi, avouez que votre imprudence est bien égoïste et bien coupable. » Quand votre vie n'était pas menacée et quand on ne vous retenait ici que pour une somme d'argent, vous vous êtes enfui par avarice. Vous n'avez songé qu'à faire l'économie de quelques écus, et vous ne vous êtes pas occupé de ce pauvre misérable que vous laissiez mourir derrière vous. Vous ne vous êtes pas soucié de moi, que vous alliez priver d'un auxiliaire indispensable. Et quel moment avez-vous choisi pour nous trahir ? Le jour où tous les malheurs nous assaillent à la fois, et je viens d'essuyer une défaite, où j'ai perdu mes meilleurs soldats, où Sophocles est blessé, où le Corphiote est mourant, où le jeune Spiro, sur qui je comptais, a perdu la vie, où tous mes hommes sont là et découragés. Et c'est alors que vous avez eu le cœur de m'enlever mon Basile. Mais vous n'avez donc pas de sentiments humains. Ne valait-il pas 100 fois mieux payer honnêtement votre rançon, comme il convient à un bon prisonnier, que de laisser dire que vous avez sacrifié la vie d'un homme pour 15 000 francs ? Eh, morbleu, m'écriai-je à mon tour, vous en avez bien tué d'autres et pour moins. Il répliqua avec dignité, « C'est mon état, monsieur, ce n'est pas le vôtre. Je suis brigand et vous êtes docteur. Je suis grec et vous êtes allemand. » Ah, cela, je n'avais rien à répondre. Je sentais bien au tremblement de toutes les fibres de mon cœur que je n'étais ni né ni élevé pour la profession de tueur d'hommes. Le roi, fort de mon silence, haussa la voix d'un ton et poursuivit ainsi. « Savez-vous, malheureux jeune homme, quel était l'être excellent dont vous avez causé la mort ? Il descendait de ces héroïques brigands de Souil qui ont soutenu de si rudes guerres pour la religion et la patrie contre Ali de Tebelen, pacha de Janina. Depuis 4 générations, tous ses ancêtres ont été pendus ou décapités. Pas un est mort dans son lit. Il n'y a pas encore 6 ans que son propre frère a péri en épire des suites d'une condamnation à mort. Il avait assassiné un musulman. La dévotion et le courage sont héréditaires dans sa famille. Jamais Vasile n'a manqué à ses devoirs religieux. Il donnait aux églises, il donnait aux pauvres. Le jour de Pâques, il allumait un cierge plus gros que tous les autres. Il se ferait tuer plutôt que de violer la loi du jeûne ou de manger gras un jour d'abstinence. Il économisait pour se retirer dans un couvent du mont Athos. Vous le saviez ? Je confessais humblement que je le savais. Savez-vous qu'il était le plus résolu de tous mes compagnons ? Je ne veux rien ôter au mérite personnel de ceux qui m'écoutent, mais Vasile était d'un dévouement aveugle, d'une obéissance intrépide, d'un zèle à l'épreuve de toutes les circonstances. Aucune besogne n'était trop dure au gré de son courage. Aucune exécution ne répugnait à sa fidélité. Il aurait égorgé tout le royaume si je lui avais commandé de le faire. Il aurait arraché un œil à son meilleur ami sur un signe de mon petit doigt. Et vous me l'avez tué, oh, pauvre Vasile. Quand j'aurai un village à brûler, un navire à mettre sur le gris, une femme à couper en morceaux, un enfant à écorcher vif, mais qui est-ce qui te remplacera ? Tous les brigands, électrisés par cette raison funèbre, s'écrièrent unanimement. Nous, nous ! Les uns tendaient les bras vers le roi, les autres dégainaient leurs poignards, les plus zélés me couchèrent en joue avec leurs pistolets. Hadji Stavros mit un frein à leur enthousiasme. Il me fit un rempart de son corps et poursuivit son discours en ces termes. « Console-toi, Vasile, tu ne resteras pas sans vengeance. Si je n'écoutais que ma douleur, j'offrirais à tes mânes la tête du meurtrier. Mais elle vaut 15 000 francs, et cette pensée me retient. Toi-même, si tu pouvais prendre la parole, comme autrefois dans nos conseils, tu me prierais d'épargner ces jours. Tu refuserais une vengeance si coûteuse. Ce n'est pas dans les circonstances où la mort nous a laissés qu'il convient de faire des folies et de jeter l'argent par les fenêtres. Il s'arrêta un moment. Je respirais. Mais, reprit le roi, je saurai concilier l'intérêt et la justice. Je châtierai le coupable sans risquer le capital. Sa punition sera le plus bel ornement de tes funérailles. Et du haut de la demeure des Palicares où ton âme s'est envolée, tu contempleras avec joie un supplice expiatoire qui ne nous coûtera pas un sou. Cette péroraison enleva l'auditoire. Tout le monde en fut charmé, excepté moi. Je me creusais la cervelle pour deviner ce que le roi me réservait, et j'étais si peu rassuré que mes dents claquaient à se rompre. Certes, il fallait m'estimer heureux d'avoir la vie sauve, et la conservation de ma tête ne me semblait pas un médiocre avantage, mais je connaissais l'imagination inventive des Hellènes de grand chemin. Algistavros, sans me donner la mort, pouvait m'infliger tel châtiment qui me ferait détester la vie. Le vieux scélérat refusa de m'apprendre à quel supplice il me destinait. Il eut si peu pitié de mes angoisses qu'il me força d'assister aux funérailles de son lieutenant. Le corps fut dépouillé de ses habits, transporté auprès de la source et lavé à grande eau. Les traits de Vassil étaient à peine altérés. Sa bouche entrouverte avait encore le sourire pénible de l'ivrogne. Ses yeux ouverts conservaient un regard stupide. Les membres n'avaient rien perdu de leur souplesse. La rigidité cadavérique se fait longtemps attendre chez les individus qui meurent par accident. Le café de gi du roi et son porte-chibouk procédèrent à la toilette du mort. Algistavros en fit les frais en sa qualité d'héritier. Vasil n'avait plus de famille et tous ses biens revenaient au roi. On revêtit le corps d'une chemise fine, d'une jupe en belle percale et d'une veste brodée d'argent. On enferma ses cheveux humides dans un bonnet presque neuf. On serra dans ses guêtres de soie rouge ses jambes qui ne devaient plus courir. On le chaussa de babouches en cuir de Russie. De sa vie, le pauvre Vasil n'avait été si propre et si beau. On passa du carmin sur ses lèvres. On lui mit du blanc et du rouge comme à un jeune premier qui va entrer en scène. Durant toute l'opération, l'orchestre des brigands exécutait un air lugubre que vous avez dû entendre plus d'une fois dans les rues d'Athènes. Je me félicite de n'être pas mort en Grèce, car c'est une musique abominable et je ne me consolerai jamais d'avoir été enterré sur cette terre-là. Quatre brigands se mirent à creuser une fosse au milieu de la chambre, sur l'emplacement de la tente de Madame Simmons, à l'endroit où Marianne avait dormi. Deux autres coururent au magasin chercher des cierges qu'ils distribuèrent à l'assistance. J'en reçus un, comme tout le monde. Le moine entonna l'office des morts. Algistavros psalmodiait les réponses d'une voix ferme qui me remuait jusqu'au fond de l'âme. Il faisait un peu de vent et la cire de mon cierge tombait sur ma main en pluie brûlante. Mais c'était hélas bien peu de chose au prix de ce qui m'attendait. Je me serais abonné volontiers à cette douleur-là si la cérémonie n'avait pu ne jamais finir. Elle finit cependant. Quand la dernière oraison fut dite, le roi s'approcha solennellement de la civière où le corps était déposé et il le baisa sur la bouche. Les brigands, un à un, suivirent son exemple. Je frémissais à l'idée que mon tour allait venir. Je me cachais derrière ceux qui avaient déjà joué leur rôle, mais le roi m'aperçut et me dit « C'est à vous, allez, marchez donc, vous lui devez bien cela. » Était-ce enfin l'expiation dont il m'avait menacé? Un homme juste se serait contenté à moins. Je vous jure, monsieur, que ce n'est pas un jeu d'enfant de baiser les lèvres d'un cadavre, surtout lorsqu'on se reproche de l'avoir tué. Je m'avançais vers la civière, je contemplais face à face cette figure dont les yeux ouverts semblaient rire de mon embarras, je penchai la tête, j'effleurai les lèvres. Un brigand facétieux m'appuya la main sur la nuque. Ma bouche s'aplatit sur la bouche froide. Je sentis le contact de ses dents de glace et je me relevai saisi d'horreur, emportant je ne sais quelle saveur de mort qui me serre encore la gorge au moment où je vous parle. Les femmes sont bien heureuses, elles ont la ressource de s'évanouir. Alors on descendit le cadavre dans la terre. On lui jeta une poignée de fleurs, un pain, une pomme et quelques gouttes de vin d'Égine. C'était la chose dont il avait le moins besoin. La fosse se ferma bien vite, plus vite que je n'aurais voulu. Un brigand fit observer qu'il faudrait 2 bâtons pour faire une croix. Algistavros lui répondit « Sois tranquille, on mettra les bâtons du Milord. » Je vous laisse à penser si mon cœur faisait un vacarme dans ma poitrine. Quel bâton ! Qu'y avait-il de commun entre les bâtons et moi ? Le roi fit un signe à son Chibouji, qui courut au bureau et revint avec 2 longues gaules de laurier d'Apollon. Algistavros prit la civière funèbre et la porta sur la tombe. Il l'appuya sur la terre fraîchement remuée, la fit relever par un bout tandis que l'autre touchait au sol, et me dit en souriant « C'est pour vous que je travaille. Déchaussez-vous, s'il vous plaît. » Il dut lire dans mes yeux une interrogation pleine d'angoisse et d'épouvante, car il répondit à la demande que je n'osais lui adresser. « Oh, je ne suis pas méchant, et j'ai toujours détesté les rigueurs inutiles. C'est pourquoi je veux vous infliger un châtiment qui vous profite en nous dispensant de vous surveiller à l'avenir. Vous avez depuis quelques jours une rage de vous évader. J'espère que, lorsque vous aurez reçu 20 coups de bâton sur la plante des pieds, vous n'aurez plus besoin de gardien, et votre amour des voyages se calmera pour quelque temps. C'est un supplice que je connais, les Turcs me l'ont fait subir, dans ma jeunesse. Et je sais par expérience qu'on n'en meurt pas. On en souffre beaucoup. Vous crierez, je vous en avertis. Vasil vous entendra du fond de sa tombe, et il sera content de nous. » À cette annonce, ma première idée fut d'user de mes jambes, tandis que j'en avais encore la libre disposition. Mais il faut croire que ma volonté était bien malade, car il me fut impossible de mettre un pied devant l'autre. Algistavros m'enleva de terre aussi légèrement que nous cueillons un insecte sur un chemin. Je me sentis lié et déchaussé avant qu'une pensée sortît de mon cerveau eût le temps d'arriver au bout de mes membres. Je ne sais ni sur quoi on appuya mes pieds, ni comment on les empêcha de reculer jusqu'à ma tête au premier coup de bâton. Je vis les 2 Gaules tournoyer devant moi, l'une à droite, l'autre à gauche. Je fermai les yeux et j'attendis. Je n'attendis pas assurément la 1/10 partie d'une seconde, et pourtant dans un si court espace, j'eus le temps d'envoyer une bénédiction à mon père, un baiser à Marianne et plus de 100 000 imprécations à partager entre Madame Simmons et John Harris. Je ne m'évanouis pas un seul instant. C'est un sens qui me manque, je vous l'ai dit. Aussi n'y eut-il rien de perdu. Je sentis tous les coups de bâton l'un après l'autre. Le premier fut si furieux que je cris qu'il ne me restait plus rien à faire pour les suivants. Il me prit par le milieu de la plante des pieds, sous cette petite voûte élastique qui précède le talon et qui supporte le corps de l'homme. Ce n'était pas le pied qui me fit mal à cette fois, mais je crus que les os de mes pauvres jambes allaient sauter en éclats. Le second m'atteignit plus bas, juste sous les talons. Il me donna une secousse profonde, violente, qui ébranla toute la colonne vertébrale et remplit d'un tumulte effroyable mon cerveau palpitant et mon crâne prêt d'éclater. Le troisième donna droit sur les orteils et produisit une sensation aiguë et lancinante qui frisait toute la partie antérieure du corps et me fit croire un instant que l'extrémité du bâton était venue se retrousser et me retrousser le bout du nez. C'est à ce moment, je pense, que le sang jaillit pour la première fois. Les coups se succédèrent dans le même ordre et aux mêmes places à des intervalles égaux. J'eus assez de courage pour me taire aux deux premiers. Je criais au troisième, je hurlais au quatrième, je gémis au cinquième et au suivant. Au dixième, où la chair elle-même n'aurait plus la force qu'il faut pour se plaindre, je me tus. Mais l'anéantissement de ma vigueur physique ne diminuait en rien la netteté de mes perceptions. J'aurais été incapable de soulever mes paupières, et cependant le plus léger bruit arrivait trop à mes oreilles. Je ne perdis pas un mot de ce que je disais autour de moi. C'est une observation dont je me souviendrai plus tard, si je pratique la médecine. Les docteurs ne se font pas faute de condamner un malade à quatre pas de son lit, sans songer que le pauvre diable a peut-être encore assez d'oreilles pour les entendre. Et j'entendis un jeune brigand qui disait au roi « Bon, il est mort, à quoi bon fatiguer deux hommes sans profit pour personne ?» Agistavros répondit « Ne crains rien, j'en ai reçu 60 à la file et 2 jours après je lançais la romanrique. Comment as-tu fait ?»« Ben, j'ai employé la pommade d'un renégat italien appelé Luigi Bay. Allez, où en sommes-nous ? Combien de coups de bâton ?»« 17. »« Allez, encore 3, enfant, et soignez-moi les derniers !» Le bâton eut beau faire, les derniers coups tombaient sur une matière saignante, mais insensible. La douleur m'avait presque paralysé. On m'enleva du brancard, on délia les cordes, on emmaillota mes pieds dans des compresses d'eau fraîche, et comme j'avais une soif de blessé, on me fit boire un grand verre de vin. La colère me revint avec la force. Je ne sais pas si vous êtes bâti comme moi, mais je ne connais rien d'humiliant comme un châtiment physique. Je ne supporte pas que le souverain du monde puisse devenir pour une minute l'esclave d'un vil bâton. Être né au XIXe siècle, manier la vapeur et l'électricité, posséder une bonne moitié des secrets de la nature, connaître à fond tout ce que la science a inventé pour le bien-être et la sécurité de l'homme, savoir comment on guérit la fièvre, comment on prévient la petite vérole, comment on brise la pierre dans la vessie, et ne pouvoir se défendre d'un coup de canne, c'est un peu trop fort en vérité. Si j'avais été soldat et soumis aux peines corporelles, j'aurais tué mes chefs inévitablement. Quand je me vis assis sur la terre gluante, les pieds enchaînés par la douleur, les mains mortes, quand j'aperçus autour de moi les hommes qui m'avaient battu, celui qui m'avait fait battre et ceux qui m'avaient regardé battre, la colère, la honte, le sentiment de la dignité outragée, de la justice violée, de l'intelligence brûlatisée, soufflèrent dans mon corps débile un gonflement de haine, de révolte et de vengeance. J'oubliais tout calcul, intérêt, prudence, avenir. Je lâchais la bande à toutes les vérités qui m'étouffaient. Un torrent d'injures bouillonnantes monta droit à mes lèvres, tandis que la bile extravasée débordait en écume jaune jusque dans le blanc de mes yeux. Certes, je ne suis pas orateur et mes études solitaires ne m'ont pas exercé au maniement de la parole, mais l'indignation qui a fait des poètes me prêta pour un quart d'heure l'éloquence sauvage de ces prisonniers cantabres qui rendaient l'âme avec des injures et qui crachaient leur dernier soupir à la face des Romains vainqueurs. Tout ce qui peut outrager un homme dans son orgueil, dans sa tendresse et dans ses sentiments les plus chers, je le dis au roi des montagnes. Je le mis au rang des animaux immondes et je lui déniais jusqu'au nom d'homme. Je l'insultais dans sa mère et dans sa femme et dans sa fille et dans toute sa postérité. Oh, je voudrais vous répéter textuellement tout ce que je le contraignis d'entendre, mais les mots me manquent aujourd'hui que je suis de sang-froid. J'en forgeais alors de toutes sortes qui n'étaient pas dans le dictionnaire, et que l'on comprenait pourtant, car l'auditoire de forçats hurlait sous mes paroles comme une meute de chiens sous le fouet des piqueurs. Mais j'avais beau surveiller le visage du vieux palicard, épier tous les muscles de sa face et fouiller avidement dans ses moindres rides de son front, je n'y surpris pas la trace d'une émotion. Hadji Stavros ne sourcillait pas plus qu'un buste de marbre. Il répondait à tous mes outrages par l'insolence du mépris. Son attitude m'exaspéra jusqu'à la folie. Oh, j'eus un instant de délire. Un nuage rouge comme le sang passa devant mes yeux. Je me lève brusquement sur mes pieds meurtris. J'avise un pistolet à la ceinture d'un brigand. Je l'arrache, je l'arme, je vise le roi à bout portant. Le coup part et je tombe à la renverse en murmurant « Je suis vengé !» C'est lui-même qui me releva. Je le contemplais avec une stupéfaction aussi profonde que si je l'avais vu sortir des enfers. Il ne semblait pas ému et souriait tranquillement comme un immortel. Et pourtant, monsieur, je ne l'avais pas manqué. Ma balle l'avait touché au front, à 1 centimètre au-dessus du sourcil gauche. Une trace sanglante en faisait foi. Mais, soit que l'arme fût mal chargée, soit que la poudre fût mauvaise, soit plutôt que le coup eût glissé sur l'os du crâne, mon coup de pistolet n'avait fait qu'une écorchure. Le monstre invulnérable m'assit doucement sur la terre, se pencha vers moi, me tira l'oreille et me dit « Pourquoi tentez-vous l'impossible, jeune homme? Je vous ai prévenu que j'avais la tête à l'épreuve des balles et vous savez que je ne mens jamais. Ne vous a-t-on pas conté aussi qu'Ibrahim m'avait fait fusiller par 7 Égyptiens et qui n'avait pas eu ma peau? J'espère que vous n'avez pas la prétention d'être plus fort que 7 Égyptiens. Mais savez-vous que vous avez la main légère pour un homme du Nord? C'est affaire à vous, peste. Si ma mère, dont vous parliez tout à l'heure, ne m'avait pas construit avec solidité, j'étais un homme à mettre en terre. Tout autre à ma place serait mort sans dire merci. Quant à moi, ces choses-là me rajeunissent. Cela me rappelle mon bon temps. À votre âge, j'exposais ma vie 4 fois par jour et je n'en digérais que mieux. Allons, moi je ne vous en veux pas et je vous pardonne votre mouvement de vivacité. Mais comme tous mes sujets ne sont pas à l'épreuve de la balle et que vous pourriez vous laisser aller à quelque nouvelle imprudence, nous appliquerons à vos mains le même traitement qu'à vos pieds. Rien ne nous empêcherait de commencer sur l'heure. Cependant, j'attendrai jusqu'à demain, dans l'intérêt de votre santé. Vous voyez bien que le bâton est une arme courtoise qui ne tue pas les gens. Vous venez de prouver vous-même qu'un homme a bâtonné en vaut deux. La cérémonie de demain vous occupera. Les prisonniers ne savent à quoi passer leur temps. C'est l'oisiveté qui vous a donné de mauvais conseils. D'ailleurs, soyez tranquille, dès que votre rançon sera arrivée, je guérirai vos écorchures. Il me reste encore du baume de Luigi Bay. Il n'y paraîtra plus au bout de 2 jours et vous pourrez valser au bal du palais sans apprendre à vos danseuses qu'elles sortent au bras d'un cavalier rossé. Je ne suis pas un grec, moi, et les injures me blessent aussi grièvement que les coups. Je montrais le poing au vieux scélérat et je criais de toutes mes forces. Non, misérable, ma rançon ne sera jamais payée, non. Je n'ai demandé d'argent à personne. Tu auras de bras que ma tête qui te servira de rien. Prends-la tout de suite si bon te semble. C'est me rendre service et à toi aussi. Tu m'épargneras 2 semaines de torture et le dégoût de te voir, qui est la pire de toutes. Tu économiseras ma nourriture de 15 jours. N'y manque pas, c'est le seul bénéfice que tu puisses faire sur moi. Il sourit, haussa les épaules et répondit « Ta 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 ta, voilà bien mes jeunes gens, extrêmes en tout. Ils jettent le manche après la cognée. Mais si je vous écoutais, j'en serais au regret avant 8 jours, et vous aussi. Les Anglais paieront, j'en suis sûr. Je connais encore les femmes, quoiqu'il y ait longtemps que je vive dans la retraite. Qu'est-ce qu'on dirait si je vous tuais aujourd'hui et si la rançon arrivait demain? On répandrait le bruit que j'ai manqué à ma parole. Et mes prisonniers à venir se laisseraient égorger comme des agneaux sans demander un centime à leurs parents. Ne gâtons pas le métier. Ah, tu crois que les Anglaises t'ont payé, habile homme? Oui, elles t'ont payé comme tu le méritais. Vous êtes bien bon. Le rançon te coûtera 80 000 francs, entends-tu? 80 000 francs hors de ta poche. Oh, ne dites donc pas ces choses-là, on croirait que les coups de bâton vous ont frappé sur la tête. Non, je dis ce qui est. Te rappelles-tu le nom de tes prisonnières? Non, mais je ne l'ai pas réécrit. Je veux aider ta mémoire. La dame s'appelait Madame Simmons. Eh bien, associée de la maison Barley de Londres. Mon banquier? Précisément. Mais comment sais-tu le nom de mon banquier? Pourquoi as-tu dicté ta correspondance devant moi? Qu'importe, après tout, ils peuvent pas me voler. Ils sont pas grecs, ils sont anglais. Les tribunaux, je plaiderai. Mais tu perdras. Ils ont un reçu. C'est juste, oui, mais par quelle fatalité leur ai-je donné un reçu? Ben parce que je te l'ai conseillé, pauvre homme. Misérable, chien mal baptisé, schismatique d'enfer, mais tu m'as ruiné, tu m'as trahi, tu m'as volé 80 000 francs. Oh, je suis responsable. Si du moins les Barlet étaient banquiers de la compagnie, je perdrai que ma part. Mais ils n'ont que mes capitaux, alors je perdrai tout. Mais tu bien sûr au moins qu'elle soit associée de la maison Barlet, comme je suis sûr de mourir aujourd'hui. Non, 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 tu ne mourras que demain. Tu n'as pas assez souffert, on te fera du mal pour 80 000 francs. Quel supplice inventé. 80 000 francs. Mais 80 000 morts seraient peu. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait à ce traître qui m'en a volé 40 000? Peu, un jeune enfant, une plaisanterie. Il n'a pas hurlé 2 heures, je trouverais mieux, mais s'il y avait 2 maisons du même nom. Cavendish Square, 31. Oui, c'est bien là. Imbécile, que ne m'avertissais-tu au lieu de me trahir? Je leur aurais demandé le double, elles auraient payé, elles en ont le moyen. J'aurais pas donné de reçu, n'en donnerai plus. Non, 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 c'est la dernière fois. Reçu 100 000 francs de Madame Cimente, mais quelle sotte phrase! Est-ce bien moi qui ai dicté cela? Mais j'y songe, je n'ai pas signé. Oui, oui, mais mon cachet vaut une signature. Ils ont 20 lettres de moi. Mais pourquoi m'as-tu demandé ce reçu? Qu'attendais-tu de ces deux femmes? 15 000 francs pour ta rançon? L'égoïsme partout. Oh, mais il fallait t'ouvrir à moi. Je t'aurais renvoyé pour rien. Je t'aurais même payé. Si tu es pauvre, comme tu le dis, tu dois savoir comme l'argent est bon. Te représentes-tu seulement une somme de 80 000 francs? Sais-tu quel volume cela fait dans une chambre? Combien il y a de pièces d'or et combien d'argent on peut gagner dans les affaires avec 80 000 francs? C'est une fortune, malheureux. Tu m'as volé une fortune. Tu as dévalisé ma fille, le seul être que j'aime au monde. C'est pour elle que je travaille, mais si tu connais mes affaires, tu dois savoir que je cours la montagne pendant toute une année pour gagner 40 000 francs. Tu m'as extorqué 2 années de ma vie, c'est comme si j'avais dormi pendant 2 ans. J'avais donc enfin trouvé la corde sensible. Le vieux Palicard était touché au cœur. Je savais que mon compte était bon. Je n'espérais point de grâce et pourtant, j'éprouvais une amère joie à bouleverser ce masque impassible et cette figure de pierre. J'aimais à suivre dans les sillons de son visage le mouvement convulsif de la passion comme le naufragé perdu sur une mer furieuse admire au loin la vague qui doit l'engloutir. J'étais comme le roseau pensant que l'univers brutal écrase de sa masse et qui se console en mourant par la conscience hautaine de sa supériorité. Et je me disais, avec orgueil, je périrai dans les tortures, mais je suis le maître de mon maître et le bourreau de mon bourreau.